90 minutes business.
Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Pas Jean-Marc Daniel aujourd'hui, ce vendredi exceptionnellement, mais ne vous inquiétez pas, Pierre Kupferman sera avec nous, Annalisa Capellini également tout à l'heure, et Marie Cœur de Roy pour parler d'immobilier. Ce sera dans notre débat à 12h40, il y aura du monde. En attendant, au sommaire de ce vendredi 20 janvier, 1,12 million de personnes dans les rues hier, selon le ministère de l'Intérieur. Après cette forte mobilisation, le gouvernement reste ferme sur la réforme des retraites. Bruno Le Maire a réagi depuis le Forum économique mondial de Davos. Nous l'entendrons bien sûr dans un instant. Ça commence demain à Paris, porte de Versailles. Le salon Who's Next prend place pour 3 jours. On va parler de ce grand rendez-vous business de la mode avec son patron Frédéric Mauss. Ce sera dans une dizaine de minutes. Et puis notre débat tout à l'heure, justement, on va parler du casse-tête de la rénovation des passoires énergétiques. Le calendrier est-il trop court? Les diagnostiqueurs sont-ils correctement et assez formés? Nous en parlerons avec Pierre, Marie et Jean-Christophe Protel, président de Cidiane. Ce sera à 12h40. Et puis n'oubliez pas, à 13h, la deuxième partie de l'émission, on va recruter. On a dépassé les 71 000 annonces de recrutement depuis le début de la saison dans cette émission. Et on va continuer. On va aussi répondre à vos questions avec notre expert. Ce sera 90 minutes business avec vous à suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter en direct à 13h donc. En attendant, c'est le journal.
90 minutes business, le journal.
1,12 million de personnes dans la rue hier, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Au lendemain de la forte mobilisation contre la réforme des retraites, le ministre de l'Économie a réagi. Depuis Davos, Bruno Le Maire a rappelé la nécessité d'une réforme du système de retraite, indispensable sur le plan financier. Alors, le gouvernement a-t-il encore des marges de manœuvre? Va-t-il faire d'une façon ou d'une autre évoluer son projet? Attention, les marges de manœuvre sont limitées, c'est ce que nous explique Caroline Morisseau. Donner des gages sans alourdir la facture, c'est tout l'enjeu du gouvernement. Parmi les pistes évoquées, sanctionner les entreprises qui ont de mauvais résultats à l'index senior. Selon Gabriel Attal, le ministre du Budget, cela peut faire partie des discussions. De quoi alimenter les craintes du patronat. Comparer les entreprises n'a pas de sens, fustige Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF. Il y a des métiers dans lesquels être senior est un avantage et d'autres plus physiques où c'est compliqué. Autre problème des entreprises, parce qu'elles recrutent beaucoup d'apprentis, vont se retrouver avec un taux de senior très bas et passer pour de mauvais élèves. La mesure pourtant a l'avantage de ne rien coûter. Autre évolution possible, porter le minimum de pension, non pas à 1200 euros brut, mais net. Il y a finalement assez peu d'écart entre les deux, admet un député de la majorité. Enfin, les Républicains notamment vont se battre pour que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans n'aient pas à cotiser plus de 43 ans. Trop cher, juge un ténor de la majorité qui insiste. S'il y a un point non négociable, c'est l'équilibre de la réforme. Les marges de manœuvre du gouvernement sont donc très limitées.
Et la réponse du gouvernement, c'est d'apporter une compensation par la mise en place d'un dividende salarié. C'est ce qu'a expliqué Bruno Le Maire depuis Davos. On l'écoute.
On ne peut pas demander aux Français de travailler plus longtemps et ne pas leur garantir en même temps une plus juste rémunération de leur travail. C'est absolument fondamental de bien comprendre les principes politiques qui sont au cœur de notre action avec le président de la République. Nous voulons plus de travail, mais nous voulons aussi un travail mieux rémunéré. Les deux vont ensemble. Nous mettrons en place ce dividende salarié et nous progresserons dans le partage de la valeur.
Bruno Le Maire dans Good Morning Business ce matin depuis Davos. Dans l'actualité également, c'est la révolution au sein du groupe Barrière. Alexandre Barrière devrait prendre le pouvoir succédant à son père, Aude Kersulec. Vous avez enquêté avec Pauline Tadevin. Les administrateurs se réunissent aujourd'hui pour entériner la cession de départ de la holding Fimalac. C'est votre enquête du jour.
Oui, avec un gros changement capitalistique chez Barrière. Fimalac, qui est actionnaire depuis 2011, va revendre ses parts. Il possède 40% du groupe. C'est la holding de Marc Ladret de la Charrière qui revend ses parts à l'actionnaire principal, la famille Barrière de Seigne, qui remonte donc à 100% du capital. C'est ce qui va être entériné aujourd'hui lors du conseil d'administration. Une opération d'un montant de 400 millions d'euros. Et l'homme qui est derrière tout ça, eh bien, c'est Alexandre Barrière, le fils de la famille, ce qui confirme quand même la prise de pouvoir des enfants dans la gouvernance du groupe. Alexandre Barrière, 35 ans, il est actuellement le directeur de la stratégie et du développement. C'est d'ailleurs lui qui insuffle depuis quelques années ce vent d'internationalisation. On a Barrière qui a ouvert un hôtel à New York, qui a ouvert une brasserie à Abu Dhabi et bientôt à Dubaï, sous la marque Phuket d'ailleurs. Alors, c'est le fils de Diane Barrière et de Dominique Desaigne. Dominique Desaigne, 78 ans, le PDG actuel qui va donc être poussé vers la sortie, même si ce changement de gouvernance, ça va se faire dans un second temps. Alexandre Barrière, qui devrait devenir président vers mars-avril, ça pourrait être une présidence tournante avec sa sœur, Joy, qui est déjà présente au conseil d'administration. Et puis les deux seront épaulés côté opérationnel par un directeur général, Grégory Rabuel, qui est ancien patron de SFR.
Merci beaucoup, Aude-Claire Sulek. Et puis, pour terminer ce journal, le choc énergétique qui touche aussi l'industrie du luxe. Alors, comment un métier d'art, celui des verriers de Murano, par exemple, fait face à la flambée des prix? Les artisans de Guerlain ont ouvert à BFM Business leur atelier sur place. Eva Jaco est allée voir.
Ce verre, orné d'une hirondelle, est le fruit de l'imagination de l'artiste verrier Aristide Nagent. Son coût de production a doublé, si bien qu'il ne peut plus fabriquer ce modèle. Face à la hausse des prix du gaz, l'inquiétude se fait sentir sur l'île de Murano, car c'est très compliqué d'éteindre un four. Il doit garder une température minimale de 1100 degrés afin de maintenir le creuset où l'on fait fondre le verre. Mais face à l'envolée des prix du gaz, Aristide Nagent n'utilise plus qu'une partie de son outil de production.
On est passé de 0,25 centimes à près de 3 euros le mètre cube. Moi, je consomme 25 000 mètres cubes. C'est considérable. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'éteindre un four.
Une situation intenable, renchérit Luciano Gambaro à la tête du consortium Promovetro Murano.
Pour nous, ce coût, qui est le second le plus important après celui des employés, est un coût absolument ingérable pour nous en tant qu'entrepreneurs. Car trouver une matière première dont le prix a été multiplié par 6, par 14, par 10, par 13 pour l'entreprise n'est pas possible.
Depuis les 8 millions d'euros accordés en mars 2021 aux verriers de l'île de Murano, aucune autre solution n'est envisagée pour pallier l'augmentation du prix du gaz. Au niveau national, le gouvernement italien donne la possibilité aux entreprises de défiscaliser leurs charges à hauteur de 40% sur 3 mois seulement. D'autres solutions plus écologiques seraient pourtant envisageables, comme l'installation d'une centrale hydrogène qui permettrait d'alimenter une partie de l'île en énergie.
Merci beaucoup Eva Jaco pour ce reportage sur place sur l'île de Murano pour BFM Business. Et n'oubliez pas ce rendez-vous, nouveau rendez-vous ce soir sur BFM Business. Iconique émission d'Audrey Maubert entièrement consacrée au luxe. Rendez-vous ce soir sur notre antenne à 21h30. Allez, c'est l'heure de notre focus. Frédéric Simotel nous a rejoint. Ça va mieux pour Netflix, Frédéric, hein, malgré des bénéfices en chute libre. La plateforme de streaming termine l'année largement au-dessus des attentes en termes de nombre d'abonnés. Un retour en forme alors qu'on a appris que son fondateur Reed Hastings allait céder sa place de PDG.
Oui, la saison 26, comme on dit, sur France en libre, parce que ça fait 25 ans qu'il était à la tête de Netflix. Alors c'est vrai que les résultats sont plutôt bons, mais un peu contrastés. Il y a un certain paradoxe, parce que les bénéfices sont de 55, sur le trimestre, sont de 55 millions de dollars net, mais c'est quand même divisé par 11 par rapport à l'année dernière. Ouais. Et puis même là, on s'attendait à des bénéfices au-delà de 250 millions de dollars. Le cours de bourse a perdu 50% au cours de l'année. Ça, c'est pour l'aspect un peu négatif. La partie positive, vous venez de le dire, on était déjà sur un élan du troisième trimestre où on commençait à retrouver des abonnés après une année 2022 compliquée. Et puis là, ça y est, ils ont atteint 230 millions d'abonnés payants, même presque 231, alors qu'ils attendaient un peu moins de 227. Donc vraiment un joli coup. Qu'est-ce qui a marché? Évidemment, les séries, hein, The Crown, Emily in Paris, Harry, Meghan, Wednesday. Mm-hmm. Puis derrière, on a d'autres films qui commencent à arriver. Il y a aussi l'offre pub. Vous savez, ils vendent aujourd'hui des abonnements Netflix avec de la pub. $6.99 aux États-Unis, 5,99 € en Europe. Et là, ils disent que ça devrait atteindre 10% de leur chiffre d'affaires et que le carnet se remplit plutôt pas mal. Donc, regardez Netflix avec un peu de pub. Quant à Reed Hastings, donc le fondateur, alors il s'éloigne un tout petit peu. Hein, il va rester président exécutif, oui. Mais il laisse aux commandes Ted Sarandos, qui est c'était son co-DG, qui est vraiment celui qui a fait passer le studio, qui a fait passer Netflix d'une entreprise technique à un studio, à un vrai studio cinéma, et puis surtout à Greg Peters, qui était le patron des opérations, qui devient le co-DG. Donc culturellement, stratégiquement, ça devrait pas changer grand-chose. Psychologiquement, voilà, avoir un peu moins de Red Hastings, ça risque de changer un petit peu.
Mais très très vite, les annonceurs suivent toujours. Hein.
Ah, les annonceurs suivent, oui, que ce soit dans la voiture, les marques de luxe, enfin voilà, tout le monde suit aujourd'hui.
Tout le monde est OK.
Ces abonnements avec de la pub.
Merci beaucoup, Frédéric Simotel. Allez, on va faire tout de suite un point Euronext avec Antoine. Antoine, le marché est en train de terminer la semaine sur un rebond. Les sorcières nous ont porté bonheur, visiblement.
Oui, pour l'instant, effectivement, les échéances mensuelles des contrats et des options sur indice. Et c'est la première de l'année, hein, journée à sorcière. Donc, du coup, elle nous porte bonheur pour le moment. Plus 0,68% pour un CAC 40, mais qui a quand même du mal à accrocher les 7000 points. On est juste en dessous, hein, 6998. Mais enfin, c'est la ligne de flottaison de la séance. Plus 0,56% pour l'Eurostock 50, plus 0,4% pour le DAX à Francfort. On sort encore une fois d'une séance un peu particulière où d'un coup, on a eu l'impression que les marchés, soudainement, se sont rappelés qu'il y avait des resserrement monétaire en vue du côté de la Fed et de la BCE. On a aussi corrigé peut-être certains excès, hein, vu qu'on montait en ligne droite depuis le 1er janvier. Donc du coup, léger rebond aujourd'hui, mais encore une fois prudence, parce que ces sorcières impliquent aussi pas mal d'arbitrage technique. Du côté dynamiques à suivre, il y a également le pétrole, hein, qui reste quand même sur une note de force, $86.63 pour le baril de Brent de mer du Nord. Et puis des taux obligataires qui ont eu tendance à légèrement se tendre du côté européen ce matin, étant donné qu'on a des poussées inflationnistes sur les prix à la production allemands qui ont beaucoup, beaucoup de mal à se réduire. On reste au-delà des 20% d'inflation en termes de prix à la production sur un rythme annuel. Les titres en forme du CAC 40, mais on s'est encore une fois replié sur des valeurs à tendance plutôt défensive. Hein. Thalès plus 1,95 à 120,30. On a ici Lord Ossotica plus 1,8 à 174,05. Total Energy gagne 1,44 à 59,18 avec les prix du brut. Puis sinon, à la baisse, c'est le secteur automobile, les constructeurs, les équipements qui sont plutôt à la baisse aujourd'hui. Michelin, moins 2,65, 28,10. Renault, moins 1,29, 36,03. Stellantis, moins 0,5, à 13,84. C'est Forcia, d'ailleurs, qui signe la plus forte baisse. Du SBF 120, moins 3,57, à 16,89. Le CAC 40, plus 0,68, 6,997 points. Et l'euro 1$, 0,840, Sandra.
Merci beaucoup, Antoine. Ne bougez pas de là. On vous retrouve à 12h30 pour parler crypto avec vous. Allez, tout de suite, c'est l'édito.
90 minutes business.
Vous l'avez noté, Jean-Marc n'est pas là aujourd'hui, mais on va quand même revenir dans cet édito sur la réforme des retraites. Ce matin, dans la matinale de BFM Business, Nicolas Dose est revenu sur les idées reçues véhiculées sur cette réforme. Il a décortiqué le vrai du faux. Écoutez, il était au micro de Christophe Jacubizine et Laure Closier.
64 ans, c'est injouable, puisque déjà à 62 ans, la moitié des Français sont au chômage.
Alors ça, c'est un argument qui est totalement faux. Vous prenez les chiffres de l'AGER Carco, le taux de chômage à 62 ans, c'est 11,5%. C'est pas 50%. Après, vous prenez les chiffres de la DARES sur la règle. Quand on ventile l'âge de 62 ans, vous en avez un peu plus de 28% qui sont dans l'emploi. Vous en avez 50,1% qui sont à la retraite. Pas forcément des gens que les entreprises ont jetés, des gens qui sont partis plus tôt à la faveur de tous les dispositifs de départ anticipé.
On mélange taux d'emploi et taux de chômage, en fait, c'est ça?
Oui, mais on mélange tout. Il y avait un autre élément par lequel je voulais commencer, qui est probablement l'un de ceux que j'ai le plus entendu, les vrais grands perdants sont les gens qui ont commencé à 20 ans. Et alors là, c'est un argument qui est complètement vrai. Il y a des dispositifs de carrière longue entre ceux qui ont commencé entre 15 et 19 ans, mais à 20 ans, c'est la double peine. À 20 ans, tu travailles jusqu'à 64 ans, et pour y accéder, il faut travailler 44 années.
Ouais, c'est ça.
Et c'est à partir de 21 ans, toujours pour accéder à 64 ans, que l'on travaille les fameux 43 ans. À 20 ans, là, effectivement, c'est les vrais, vrais perdants.
Autre argument contre la réforme, à 62%, 40% des jeunes travaillent
62
plus. 62 ans, pardon.
Ouais. 40%, alors là, c'est pire même. C'est vrai, et c'est même un peu plus. Quand on regarde le taux d'emploi des 60-64 ans, il est de 35%. Et là, on a un vrai sujet. Et un vrai sujet que la réforme, malheureusement, va participer à régler en augmentant le taux d'emploi, mais pas complètement. Il y a une vraie responsabilité des entreprises. Je ne sais pas s'il faudra aller jusqu'à un index senior qui soit contraignant et sanctionné. Et puis, il y a aussi une vraie amélioration à apporter sur le... en matière de formation. Pour moi, c'est le sujet le plus complexe à débattre. Ouais.
Alors, autre argument, alors, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, les femmes sont pénalisées par la réforme.
Alors, c'est faux si on parle des femmes qui ont eu des enfants. Je rappelle que la réforme de 2010 leur accorde 8 trimestres par enfant, donc 2 enfants, 16 trimestres. La plupart de ces femmes ont eu des carrières hachées, c'est vrai. Et pour arriver au fameux trimestre cotisé, elles sont très nombreuses à devoir attendre l'âge sans décote. 67 ans. Or, cet âge sans décote ne bouge pas dans cette réforme, ce qui veut dire qu'elles ne travailleront pas plus. Toutes celles qui doivent aujourd'hui atteindre 67 ans ne vont pas travailler plus avec cette réforme.
Autre argument, les 1200 euros bruts de pension minimum qui vont profiter en réalité à très peu de retraités.
C'est totalement vrai. Alors, ça n'a pas été dissimulé dans le projet, mais chaque fois, on donne le chiffre sans la fin de la phrase. Pour une carrière complète. Et en fait, les gens concernés par cette pension minimum sont pour beaucoup d'entre eux des gens qui ont beaucoup de mal à boucler une carrière complète. Et donc, à l'arrivée, en fait, les bénéficiaires de ces 1200 euros bruts seront vraiment, vraiment minoritaires. La majorité ne sera pas éligible à cette pension minimum annoncée.
Alors, autre argument, cette réforme n'est pas urgente, elle peut attendre.
Oh oui, aucun problème, on peut la faire en 2024, mais ceux qui sont contre en 2024 vous diront c'est pas urgent, on la fait en 2025, et puis en 2025 on vous dira 2026. Politiquement, un gouvernement qui veut engager la réforme la plus complexe à faire passer, il le fait le plus tôt possible dans le quinquennat.
Est-ce qu'elle est inefficace?
Ah non, ça c'est complètement faux, elle n'est pas inefficace, puisqu'en 2030, elle apporte 18 milliards d'euros d'économie et assure l'équilibre financier du système. Et elle n'est pas inefficace, parce que mécaniquement, une réforme des retraites augmente le taux d'emploi, augmente le PIB par habitant, et c'est un élément constitutif, c'est l'effet macroéconomique d'une réforme des retraites. Toutes les réformes des retraites augmentent la croissance potentielle. Non, ça n'est pas inefficace.
Voilà l'édito. 90 minutes business actu continue dans 2 minutes. Nous allons recevoir le patron de Who's Next qui a lieu ce week-end à Paris. À tout de suite.
90 minutes business, l'invité.
Avec nous ce midi, Frédéric Mahos, directeur général du salon Who's Next. Bonjour, merci Bonjour. D'être avec nous aujourd'hui. Le salon qui commence ce week-end, porte de Versailles à Paris. Et bonne nouvelle d'ailleurs, il croît de plus en plus. Un Who's Next, c'est plus un seul salon aujourd'hui, c'est 5 salons professionnels en un. Expliquez-nous cela.
Exactement, donc on est sur cette édition, on accueille le salon international de la lingerie. Interfilière, qui est l'approvisionnement. On a Who's Next, bien entendu, Bijorka sur le bijou, et Impact, qui est un salon qu'on a lancé en 2019 autour de la transition environnementale. Donc, effectivement, on a 5 événements sur 3 jours en un lieu, et c'est ce qui est assez unique au monde, parce que nulle part ailleurs dans le monde, il y a autant d'industries créatives qui se regroupent en un salon, tout ça pour faciliter l'accès aux visiteurs et attirer le plus de monde possible sur nos événements.
Oui, salon professionnel, effectivement, pour les marques, les distributeurs, 1255 marques cette année, c'est ça ?
Même un peu plus, oui.
Un petit peu plus, d'accord, en menant 5 salons professionnels de front. Vous insistez peut-être aussi sur la nécessité de tenir encore aujourd'hui des salons en physique, ça reste essentiel.
Alors surtout, les 3 dernières années avec le Covid, on a un modèle qui a été forcément challengé. En revanche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à la sortie du Covid, il y a un engouement pour le physique. Mais moi, je fais toujours le parallèle. On a été confinés, empêchés d'aller, par exemple, au restaurant, de sortir. Et rappelez-vous, tout de suite après le confinement, on n'avait qu'une idée en tête, c'était retrouver du monde, se sociabiliser. Oui. Et le salon physique, c'est exactement ça. Et on est dans des industries, finalement, où, vous savez, un vêtement, on a besoin de voir, on a besoin de le toucher, on a besoin de voir comment il tombe. Le physique ne sera jamais remplacé. Maintenant, c'est voir comment on utilise les deux mondes, à la fois le monde du physique, mais aussi le digital. Mais on a un engouement, nous, qu'on constate, parce qu'on a repris les grands événements en septembre 21. Oui. Et on a une croissance du visitorat, notamment avec la fin des restrictions, qui n'a cessé d'arriver. Donc, finalement, oui, il y a un engouement pour le physique. Et c'est beaucoup plus que simplement... On va rencontrer ses pairs, on échange, et ce moment du physique, et nous on aime bien le théâtraliser, le scénographier, c'est très important dans notre profession.
Améliorer, upgrader malgré tout, avec une dimension digitale aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup progressé dans ce domaine, ça se fait sous quelle forme chez Who's Next ce week-end?
Alors nous on a donc le moment physique, où on découvre les collections, et on a à côté une plateforme digitale, qui est une marketplace, B2B, qui permet à la fois en amont du salon et après le salon, de continuer les échanges, de faire des commandes, et de continuer, je dirais, toute cette partie business tout au long de l'année. C'est une plateforme qu'on a lancée il y a un an maintenant et qui fonctionne très bien, qui se développe très bien et qui a la particularité d'avoir plusieurs catégories, c'est-à-dire qu'on a la mode, On a la lingerie, on a pas mal de food aussi, parce qu'elle représente un autre gros salon qui est le salon de l'agroalimentaire, le CIAL, et le sport. Donc on est une sorte de, voilà, de très grosse marketplace pour tout à chacun, pour faire leurs achats après le salon.
Alors, quelles vont être les grandes nouveautés, les grandes tendances qui sont présentées, qui peuvent se dégager de cette édition 2023 chez Who's Next ?
Alors nous, on attache vraiment une importance à tout l'aspect scénographie, ambiance, atmosphère. Et là, on a un thème qui est très fort, qui est très onirique, je pourrais le qualifier comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien que les gens, ils sont en général, nos visiteurs, ils sont dans des boutiques ou alors ils sont à la tête de plateformes digitales. Ce qu'il faut, c'est que quand ils arrivent sur le salon, ils soient embarqués dans un univers. C'est-à-dire, on a notre actualité, comme tout à chacun, on est dans notre boutique. Mais le moment où on vient au salon, il faut rentrer dans quelque chose. Et c'est nous ce qu'on aime bien faire, à la fois avec notre scéno, mais avec les animations qu'on va proposer. Et on est là pour faire découvrir des choses. Donc il y a tout un parcours et une découverte. Et la grande nouveauté de cette année, c'est le salon de la lingerie, qui intègre le groupe WSN, avec pareil une touche WSN, et donc un défilé qu'on a amélioré. Enfin voilà, des tas de choses qui donne envie de revenir finalement. Moi je dis toujours, il faut qu'on laisse une trace mémorielle dans la tête de nos visiteurs, et si on fait ça, c'est pari gagné pour la suite.
Il y a un petit côté chaud, hein. C'est pour continuer à faire rêver finalement d'être là dans ces salons-là.
Ça doit faire rêver,
ouais.
C'est très engageant, hein. Vous savez, pour venir sur un salon, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande, donc il faut aussi que le visiteur se dise j'ai envie, il faut susciter l'envie de monter, donc de monter à Paris. Donc c'est ce qu'on s'attelle à faire avec toutes les équipes WSN.
Et ce malgré ce poids qui pèse aujourd'hui sur tous les secteurs de l'économie, à savoir réduire au maximum son bilan en carbone, devenir vert. Comment vous vous y prenez, vous, chez Who's Next, pour réduire l'impact du salon, l'impact des marques ? Est-ce que c'est quelque chose, un virage que vous demandez même aux marques qui viennent et qui se proposent de venir ?
Alors, de deux manières. On le traite à la fois d'une manière interne, avec nous un souci particulier qui est amené à notamment la réutilisation des matériaux qui sont utilisés pour le salon, et d'une partie externe, notamment en 2019, on a lancé Impact, qui est un salon, un secteur de Who's Next qui est dédié entièrement à cette transition environnementale. Donc on a été, je dirais, pas précurseur, parce que c'était déjà dans l'air du temps, mais en tout cas, nous, c'est notre manière d'accompagner ces marques-là, de leur donner une caisse de résonance, finalement. Et de plus en plus, moi, c'est ce que je dis, hein, la mode, elle a déjà pris ce virage-là. Alors, certes, il y a des plus gros bateaux qui sont plus difficiles à faire changer, mais c'est une industrie qui est extrêmement résiliente et qui se transforme assez vite, parce qu'elle a l'habitude intrinsèquement de se renouveler au rythme des saisons.
Oui.
Donc, par rapport à d'autres industries, la mode, elle a toujours été plus agile. Et nous, on le sent vraiment. Il y a maintenant des tas de marques qui ont à minima un engagement éco-responsable.
Elle se crée même à la base avec un engagement.
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer une marque qui ne soit pas éco-responsable. En tout cas, dans notre bassin, je dirais le bassin européen, méditerranéen, la plupart des marques se créent d'ores et déjà avec des critères d'éco-responsabilité extrêmement forts. Nous, on est là pour mettre ça en avant. Et on a notamment cette année un partenariat avec un salon allemand qui s'appelle Neonit, qui était précurseur, lui, pour le coup, dans cette initiative, qui nous rejoint. Et ça démontre aussi l'attractivité de Paris. C'est-à-dire que Neonit choisit Impact et WSN pour s'implanter en France.
C'est Who's Next, c'est ce week-end, à partir de demain, c'est bien ça.
Ouvre demain matin.
Demain, porte de Versailles, à Paris. Merci Frédéric Mahos d'être venu nous voir, directeur général du salon Who's Next, des 5 salons Who's Next, on peut le dire comme ça, ce week-end tout en un. Merci à vous. Tout de suite, le top 3 du web.
90 minutes business, le top 3 du web.
Pierre Kupferman est avec moi. On commence, Pierre, par cet article. Tiens, on en parlait tout à l'heure avec Frédéric Simotel. Cet article consacré à Netflix qui intéresse beaucoup nos lecteurs.
Oui, donc c'est pas le départ de Reed Hastings, le PDG et fondateur de Netflix, qui suscite de l'intérêt, mais l'entrée en vigueur du paiement des partages de comptes. Netflix annonce qu'avant la fin mars, un nouveau système sera mis en place. Alors, on n'en connaît pas le détail, hein, mais on sait déjà comment ça s'est passé lors du test, puisqu'il y a eu un test. Et le test, c'était 3 euros par mois de plus pour le partage de comptes. Netflix assure que 100 millions de foyers seraient potentiellement concernés et que le recours massif au partage de comptes en dehors du contexte purement familial mettait en péril les capacités d'investissement à long terme de l'entreprise. Netflix rappelle aussi qu'il s'agit finalement simplement de faire appliquer les conditions d'utilisation prévues
au contrat. Le contrat qu'on signe au départ.
Ben oui, exactement. Hein, que voilà, on n'est pas censé partager ces codes. C'est intéressant de voir, en fait, une chose. Parce que vous êtes concerné ou pas d'ailleurs, Sandra?
Je suis concerné par Netflix, mais pas par le partage de code.
Bien. Mais en tout cas, pour ceux qui seraient potentiellement concernés, petite info quand même, en fait, cette chasse aux non-abonnés, puisqu'on parle bien d'eux, devrait essentiellement concerner ceux qui bénéficient donc du partage de comptes et regardent Netflix sur leur téléviseur. Ça ne sera pas le cas si vous avez du partage de compte sur smartphone, tablette ou ordinateur. En tout cas, c'est ce qui semble transpirer de ce qu'on a compris, de ce qu'allait mettre en place Netflix.
On poursuit évidemment avec le temps fort du moment, cette mobilisation hier contre la réforme des retraites et cet article consacré aux réponses d'Olivier Dussopt, interpellé sur BFM TV par des chômeurs âgés qui se demandent comment ils vont pouvoir tenir 2 ans de plus, Pierre.
Oui. Et c'est le cas de Patrick, 55 ans, dont le dernier emploi était directeur commercial, au chômage depuis 1 an. Voilà ce qu'il a expliqué au ministre du Travail. Alors, on ne va pas passer l'extrait, mais je vais citer ses propos. Donc, j'ai envoyé plus de 900 CV et lettres de motivation. En 1 an, j'ai été 9-10 fois en finale. Et à chaque fois, l'entreprise a privilégié un profil plus junior. Patrick perçoit aujourd'hui 1600 euros par mois. Il a été obligé de vendre sa maison. Réponse d'Olivier Dussopt, les entreprises qui ne jouent pas le jeu et ne sont pas transparentes seront sanctionnées financièrement et celles qui n'ont pas de résultats suffisamment intéressants seront obligées de négocier un accord. Mais surtout, le ministre a annoncé qu'il portera au printemps prochain un projet de loi pour faire en sorte que les entreprises aient intérêt à recruter des seniors. L'idée étant d'inciter les seniors à accepter un poste moins bien payé grâce à un système d'aide compensatoire personnalisé.
Oui, parce que c'est toujours ça, effectivement, le problème des personnes seniors dans les entreprises en fin de carrière. Et puis, Pierre, on finit avec les déclarations de Bruno Le Maire sur notre antenne, le ministre de l'Économie, qui fixe les limites à l'amélioration de ce texte, justement.
Mais quand on parle de limites, de quoi parle-t-on en réalité? Du coût financier que d'éventuelles améliorations pourraient impliquer. Oui. Et donc, Bruno Le Maire le dit poliment, mais fermement aux parlementaires LR ou aux parlementaires de la majorité, tenter d'ajouter du sucré. Alors on va citer ses propos, c'est intéressant. Toutes les ouvertures et discussions sont intéressantes, toutes les propositions sont utiles, mais elles doivent s'inscrire dans un cadre financier qui garantit un retour à l'équilibre en 2030. C'est un point absolument fondamental de cette réforme. Je ne vais pas chercher à imiter Bruno Le Maire dans le phrasé, j'y arrive pas. Rappelons quand même, pour prendre un exemple, que dispenser d'une éventuelle 44e année de cotisation, les salariés qui ont commencé à travailler à 20 ans, ça représenterait un manque à gagner de l'ordre de 2 milliards d'euros.
Merci Pierre, on va y revenir bien sûr dans le rappel des titres de Stéphanie Collot dans 2 petites minutes et après il y aura le débat, on parlera immobilier, passoire énergétique, DPE. Restez avec nous sur BFM Business.
Stéphanie Collot.
Et à la une, c'est la réforme des retraites et une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi 31 janvier et même au-delà pour la CGT cheminots. Hier, la première journée de grève a été suivie par un peu plus d'1 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon les syndicats. Une mobilisation qui ne surprend pas Bruno Le Maire, mais pour le ministre de l'Économie, si cette réforme est difficile, elle est aussi nécessaire pour sauver le système. Le gouvernement est ouvert à la discussion sur le texte, mais il faut que ça reste dans un cadre financier tenable. On écoute le ministre de l'Économie, il était l'invité de BFM Business ce matin.
Si on veut qu'une réforme tienne bon, il faut que les piliers fondamentaux soient préservés. Les 43 ans de durée de cotisation, l'âge légal à 64 ans, ce sont des piliers qui garantissent cet équilibre financier en 2030. Donc il ne faut pas affaiblir les piliers d'une réforme. Je rappelle par ailleurs que ces propositions représentent déjà une avancée, une concession par rapport à ce que le président de la République avait proposé pendant la campagne présidentielle.
De son côté, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Mont-de-Marsan. Il présentera ses vœux aux armées. Le chef de l'État va esquisser la future loi de programmation militaire 2024-2030. En perspective, un budget record, plus de 400 milliards d'euros, avec une priorité, faire entrer l'industrie de défense dans le combat de haute intensité. Ça y est, la Banque de France valide la révision du calcul du taux d'usure. Il sera désormais revalorisé tous les mois à partir du 1er février et non plus tous les trimestres, comme c'était le cas jusqu'à jusqu'à présent, ce qui devrait faciliter l'accès au crédit pour les particuliers. Avec la hausse des taux d'intérêt, ce taux d'usure était trop bas et il était à l'origine de nombreux rejets de dossiers, même pour les acheteurs les plus solvables. Plus d'un million d'entreprises ont été créées en 2022, un record selon l'INSEE. 61% des entreprises nouvellement créées l'ont été par des auto-entrepreneurs. Dans l'actualité entreprise, justement, la purge se poursuit dans la tech américaine. Google supprime 12 000 postes dans le monde, soit environ 6% de ses effectifs. Le géant américain anticipe lui aussi des risques de récession. Hier, Microsoft annonçait la suppression de 10 000 postes. Stellantis va suspendre la semaine prochaine la production sur son site italien d'Atessa. Il s'agit de la plus grande usine de production de vannes en Europe, en cause un manque de composants. Révolution en vue au sein du groupe Barrière. Alexandre Barrière va prendre le pouvoir, succédant à son père, Dominique Dessaigne. Autre sujet au menu du conseil d'administration du groupe aujourd'hui, Fimalac, actionnaire depuis 2011, qui va céder ses parts. La holding qui possède 40% du capital les revend à la famille Dessaigne-Barrière. Montant de l'opération à 400 millions d'euros. Le secteur aérien confirme sa reprise. Le transport a retrouvé les 4/5 de ses passagers par rapport à 2019, avec plus de 144 millions de voyages en avion l'année dernière. La dynamique a même été plus soutenue au second semestre, selon la DGAC. Et puis, dans le secteur touristique, la demande de vacances de luxe dope les ventes. C'est ce qu'indique Thuy, le premier voyagiste européen. Il y a eu une plus forte demande pour cet hiver par rapport à l'avant-Covid. Et pour cet été, le chiffre d'affaires dépasse déjà les niveaux de 2022, avec des réservations plus longues de 2,5 jours en moyenne. On jette un coup d'œil au CAC à la mi-journée. L'indice parisien évolue dans le vert, plus 0,6%, 6 998 points, Sandra.
Merci beaucoup Stéphanie Collo.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
Et après avoir jeté un œil au CAC 40, on va vous rejoindre en direct, Antoine Larigauderi à Euronext. Antoine, on voit naître bon du cours des crypto-monnaies avec ce nouveau coup de tonnerre dans l'industrie. Le géant déchu FTX, dont on a beaucoup parlé, pourrait bientôt renaître de ses cendres, Antoine.
Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est très très sérieusement envisagé par le nouveau patron. Alors il s'appelle John Ray et veut vraiment faire table rase de l'époque Sam Bankman-Fried. D'ailleurs, il a coupé tout lien avec lui et ne fait qu'être spectateur en fait de ses déboires judiciaires désormais. Un groupe de travail est déjà à l'œuvre sur ce projet de redémarrage d'FTX.com, la plateforme de trading de l'entité FTX. Il estime que tout cela est tout à fait possible et que ce serait une excellente manière, en fait, de recréer de la valeur pour les actionnaires, pour les clients, plutôt que de liquider les actifs en revendant la plateforme à la casse. Car la nouvelle équipe dirigeante en est persuadée, l'infrastructure d'FTX en elle-même, la technologie qu'elle a développée pendant toutes ces années, est tout à fait opérationnelle, tout à fait compétitive et pleine de qualité pour créer à nouveau de la valeur. Le nouveau patron dit avoir déjà recueilli de nombreuses marques d'intérêt de la part des partenaires du projet, des clients, de potentiels nouveaux investisseurs aussi. Ça paraît difficile à croire, d'autant que c'est vrai que ces sociétés ont un principal inconvénient, c'est que ce ne sont pas des sociétés publiques, comme on dit aux États-Unis, elles ne sont pas cotées, donc on n'a pas de transparence et de moyens de vérifier ce que dit John Ray. Mais c'est pourtant, en tout cas, son opinion. Tout est sur la table, dit-il. S'il y a une voie à suivre au sujet d'un redémarrage d'FTX.com, alors nous ne ferons pas qu'étudier cela, nous le ferons. C'est ce qu'il a dit au Wall Street Journal là, hier. En tout cas, certains suivent le pari sur le marché crypto. Le jeton FTT, dont la valeur a été quasiment anéantie après le scandale FTX, a regagné plus de 30% sur cette nouvelle.
Et ce tweet de Sam Bankman-Fried qui est d'accord pour relancer FTX, c'est quand même fort de café quand même, Antoine.
Ben, il est d'accord, mais enfin, il n'aura pas beaucoup son mot à dire parce qu'il n'aura pas trop de liberté d'action. Hein. Le monsieur est quand même détenu dans sa maison avec pas grand-chose à faire.
C'est ce qui me semblait.
Donc, il peut commenter, il peut voir ça d'un... Voilà, d'un œil étranger. À mon avis, John Rey va pas être tout à fait d'accord pour l'accueillir à nouveau comme partenaire. Mais en tout cas, effectivement, ça pourrait être le phénix, là, et la nouvelle la plus étonnante et le retournement de situation le plus insensé de ce dossier complexe d'FTX.
On en reparlera évidemment avec vous. Merci beaucoup, Antoine Larry-Gaudry, en direct depuis Euronext. Notre petit détour habituel cette semaine par le Forum économique de Davos, cinquième et dernier jour. Edwige Chevrillon, du bilan et des perspectives peut-être, Edwige.
Clap de fin pour le World Economic Forum ici à Davos avec la traditionnelle table ronde de clôture. On parlait d'un vent d'optimisme ici, mais la directrice générale du FMI a dit « Attention, on était trop pessimiste, il ne faut pas être trop optimiste, il faut être pragmatique ». Évidemment, l'inflation, la crise en Ukraine, la crise énergétique, voilà, sont des points inquiétants, mais en même temps, il y a la stabilisation de l'inflation et le retour de la Chine. Mais malgré cette petite douche froide, les chefs d'entreprise ici ont envie d'aller de la vente et d'affronter tous les défis dont on a parlé ici cette semaine. Comme toujours à Davos, des grands moments, l'intervention par exemple de la première dame ukrainienne ou encore la militante Greta Thunberg qui a dénoncé l'absurdité d'écouter ceux qui polluent le plus ici à Davos, et le témoignage très poignant du patron de Publicis, Arthur Sadoun, pour lutter contre la stigmatisation du cancer au travail. On s'interrogeait sur l'utilité du forum économique. Il a montré clairement cette semaine qu'il avait toute sa place aujourd'hui.
Merci beaucoup Nathan Cocampo. Vous l'avez vu, ce n'était pas Edwige Chevrillon. Nathan qui était à Davos également toute la semaine. Dans un instant, notre débat, on va parler d'immobilier, de passoire thermique, de calendrier, de diagnostic immobilier. Restez avec nous sur BFM Business.
90 minutes business, le débat.
Le débat 90 minutes business, on en parle assez souvent, mais c'est vrai qu'actuellement, hein, ça, y a des vraies conséquences. Hein. Marie-Cœur de Roy, vous êtes souvent sur ce plateau pour parler de transition énergétique dans l'immobilier, de passoire énergétique.
C'est ma passion passoire, Sandra.
Je crois qu'on va en parler pendant des années, c'est ça qui est bien. Pierre Kupferman est avec nous également autour de ce plateau et Jean-Christophe Protet, bonjour. Président de Decidian, syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier. Oui, on parle immobilier. La loi climat et résilience qui a mis dans le viseur des autorités les passoires énergétiques qui vont devenir progressivement interdites à la location. Le compte à rebours a commencé le 1er janvier. Dans les ventes, Pierre Kupferman, est-ce qu'on commence déjà à le voir ?
Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu une étude menée par le réseau d'agences immobilières Guy Hoquet qui nous dit que, bon, il n'y a pas de raz-de-marée, mais on va dire qu'il y a une marée montante, au moins dans certaines villes, pour tout ce qui est évidemment... les logements classés F et G, on parle pas du E, mais F et G, ça représente, par exemple, à Paris, 22% des logements qui sont proposés à la vente. C'est quand même pas rien, c'est plus que la part relative de ces logements dans le parc. Mmh. On est autour de 15% à Dijon et à Rouen, et pas très loin d'ailleurs à Caen, Limoges, Saint-Étienne, Nîmes et Clermont-Ferrand. Mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est pas tant de regarder si il y a un certain nombre de propriétaires qui peut-être le louaient ou le louaient pas, mais qui veulent s'en débarrasser de ces, entre guillemets, passoires thermiques. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir l'effet sur les prix. Et là, on voit que finalement, il n'y a pas tout à fait une corrélation entre... il y a beaucoup de passoires thermiques à la vente, et donc, on pourrait se dire, elles vont se vendre beaucoup moins cher. Non, la décote n'est pas du tout la même. Par exemple, à Paris, la décote, c'est 3%. Bon, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus énorme. Alors que, par exemple, en Avignon, qui n'est pas dans la liste d'ailleurs des villes où il y a le plus de passoires thermiques mis en vente, ben vous êtes à 30% de décote. Mmh. À Montauban, 15%. Et vous avez, à l'inverse, des villes où vous avez des logements qui sont classés F et G, où il y a zéro décote. On peut citer Rennes, Angers, Orléans, Bordeaux. Et là, c'est vrai que on n'y comprend pas grand-chose.
Bah si, ça c'est clair. Enfin, pardon.
La réalité, c'est que...
Parce que quand tu es sur un marché comme Paris, typiquement, où tu dois avoir de mémoire 40% de passoires thermiques, de fait, la valeur verte, elle n'a pas trop de sens. On est sur des marchés tendus où tu as essentiellement des passoires thermiques. Quand tu vas dans le sud de la France, tu as moins de passoires. Donc forcément, si tu as une passoire, pas de bol, elle va subir une grosse décote. Donc c'est à peu près la règle. Hein. C'est que plus vous avez un marché...
Rennes, Orléans,
tendus. Ben c'est des marchés tendus. C'est pour ça que j'ajoute plus tu as un marché tendu et qui plus est de bonne qualité, plus les décotes seront importantes sur les quelques passoires.
Mais là, il n'y a pas de décote.
Justement, c'est ce que je te dis. Tu es sur un marché très tendu. Oui. Rennes, Angers, ça fait partie des villes qui ont explosé là ces dernières années. Bordeaux, c'est pareil. On est sur soit des très grosses villes à l'image de Paris avec en plus beaucoup de passoires, soit sur des très grosses villes très tendues où la valeur verte a assez peu de sens parce qu'il y a tellement peu d'offres et tellement de demandes surtout que de fait, la valeur verte, elle n'est pas encore palpable. Elle va le devenir, hein, très clairement, mais elle n'est pas encore palpable. À l'inverse, dans des marchés plus détendus, Avignon, Montauban, c'est quand même pas là où on enregistre le plus de transactions et où en plus, tu as un parc qui est quand même assez neuf ou assez récent ou assez bien entretenu, bah, pour peu que tu aies une passoire thermique, pas de bol, elle se vendra forcément beaucoup moins cher.
Mais ça va évoluer.
Ça va évoluer. De toute façon, la valeur verte qui était quasi inexistante il y a quelques années, je pense que vous n'allez pas me contredire, elle existe désormais. Et c'est pour ça que le métier de diagnostiqueur en soi est en train de devenir à ce point important.
Au cœur du problème, Jean-Christophe Protet, effectivement, tout va reposer sur le diagnostiqueur. C'est à la fois très intéressant, assez problématique dans cette période de transition.
Alors, effectivement, alors moi, j'ai pas un avis éclairé sur la statistique. Je lis, comme vous, les différentes études qu'on a pu sortir. Parce que le diagnostiqueur, lui, il intervient avant. Donc, il n'est pas impacté et il n'est pas intégré dans la transaction.
Oui.
Il est un préliminaire à la transaction. Néanmoins, effectivement, son rôle devient de plus en plus clé dans le cadre, de manière générale, la rénovation énergétique. Et là, on est en plein dedans.
Oui.
Hein, on en parle. Alors ça, on est sous les feux de la rampe, là, en ce moment, ça fait quelques mois. On parle, effectivement, du professionnalisme du diagnostiqueur. On parle de la fiabilité du DPE. Mais je pense qu'il est important, c'est déjà se remettre, revenir un peu en arrière sur le pourquoi. On est dans le cadre... Alors, l'immobilier et le logement représentent à peu près 40% plus de la consommation énergétique en France et 25% de l'émission en gaz à effet de serre. Donc, d'un point de vue réchauffement climatique, le logement est extrêmement impactant. Donc, il y a eu la loi climat et résilience, qui a été assez disruptive quand même.
Oui, il y a un an et demi.
Il y a un an et demi, qui dit, vous savez quoi, on va faire un diagnostic de performance énergétique unifié, parce qu'avant, il y avait 46 000 méthodes. Deux, on va faire de ce diagnostic immobilier, de ce diagnostic de performance énergétique, quelque chose d'opposable. Ça engage à la fois la responsabilité du diagnostiqueur, mais surtout la responsabilité du propriétaire. Et puis, de surcroît, ça devient contraignant. Comme vous l'évoquiez, il y a effectivement... à partir du 1er janvier 2023, l'interdiction à la location des super passoires, plus d'ailleurs sur un volet d'essence que sur un volet consommation énergétique. 2025 étiquette G, vous connaissez. Donc ça devient contraignant. Donc effectivement, le propriétaire, avant il faisait son DPE qui joignait, qui l'annexait à sa vente, ça avait un titre informatif. Là, c'est contraignant. Et ça l'engage.
Ma question, c'est justement, ça fait un an et demi que la loi climat et résilience est passée. Ça fait un an et demi que la fonction de diagnostiqueur est devenue absolument au cœur de ce problème. Est-ce que le calendrier qui a été mis en place à partir de ce 1er janvier est réaliste? Est-ce que les rénovations vont suivre? Est-ce que les formations de diagnostiqueurs vont suivre? Bref, est-ce que c'est réaliste ce calendrier?
Alors, dans votre question, il y a plusieurs questions.
Oui.
Il y a le volet du diagnostiqueur, et puis il y a le volet plus général. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est bloquant, principalement, c'est notre capacité à faire de la rénovation énergétique. Vous êtes tous confrontés, comme moi, quand vous cherchez un artisan, c'est un peu compliqué, et je ne jette pas la pierre aux artisans, on en a vraiment besoin, mais je pense que c'est là où ça sera le plus compliqué, c'est qu'on ait la capacité à faire effectivement la rénovation énergétique. Sur le diagnostiqueur, oui, il y a un appel d'air. Effectivement, il y a un besoin de recrutement important. Il y a des problématiques, on en parlera, je l'espère, sur le DPE nouvelle formule qu'il faut régler. Mais je pense que c'est pas ça qui va être bloquant dans le calendrier de la rénovation énergétique. C'est mon point de vue.
Pierre. Comment vous expliquez, alors ça c'est un chiffre qui m'a bluffé, parmi les métiers... professions, enfin entreprises, catégories d'entreprises qui ont connu la plus grosse progression du nombre de défaillances en 2022. Ce sont les chiffres d'Asterès. Vous avez alors les boulangers pâtissiers, les restaurateurs, ça, pas de surprise. Vous avez les spécialistes de l'isolation. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ce métier, où il y a une telle demande, se retrouve avec un niveau d'augmentation de faillite qui est du double, quasiment. Alors, par rapport à l'année précédente.
Pardonnez-moi, mais j'ai pas de réponse à cette question. Effectivement, c'est effrayant et c'est difficilement compréhensible. Alors, bon, c'est des métiers qui sont sous tension, c'est des gens qui sont confrontés tous les jours à des problèmes de main-d'œuvre, c'est des gens qui ont été confrontés à l'augmentation des coûts. Puisque
les
globalement, on estime.
Surtout les coûts.
Ben, on considère qu'aujourd'hui, les approches chez un artisan ou dans une entreprise de bâtiment ont augmenté de 27%. Donc, effectivement, il y a probablement des gens. Je lance ça off.
Oui, c'est pas
voilà,
off.
C'est une analyse vraiment en live. Oui. Peut-être qu'effectivement, des artisans ont proposé des devis à 100 et qui n'avaient pas intégré l'augmentation des matériaux et qui se retrouvent à faire le boulot et donc confrontés à ça. C'est peut-être une des explications. Mais encore une fois, je reste très prudent avec ce dire.
En tout cas, c'est très inquiétant.
Quand même. C'est très inquiétant, mais c'est toute la filière du bâtiment pour laquelle il va falloir à un moment donné qu'on s'inquiète, plus globalement, hein, effectivement, parce qu'on a quand même des entreprises qui ont subi une hausse des coûts des matériaux sans être en capacité de pouvoir répercuter sur le client final l'essentiel de ce qu'ils ont subi. Donc il y en a qui ont pu négocier, il y en a qui n'ont pas pu. Il y a eu les contrats publics où là, pour le coup, il y a eu un accord avec l'État pour pouvoir répercuter ces hausses de coûts. Mais il y a des entreprises qui étaient d'ores et déjà fragiles et qui ont été encore plus fragilisées par ce qui s'est passé et par l'incapacité à répercuter la hausse de leurs propres coûts sur les autres.
Jean-Christophe Proté, je voudrais revenir sur le diagnostic en lui-même, sur le diagnostiqueur. On l'a vu dans plusieurs reportages, dans plusieurs médias. Un même appartement qui est diagnostiqué par 3 diagnostiqueurs différents, ça donne une note différente, ça donne un devis différent. Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème d'adaptation à ces nouvelles normes qui ont été mises en place par la loi climat et résilience? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce qu'il y a un process à suivre ou est-ce qu'il faut l'écrire?
Alors, je crois que en étant sérieux, il ne faut pas nier le manque de fiabilité du diagnostic de performance énergétique. Ça serait malhonnête de la part des diagnostiqueurs de le nier, je crois. Après, ça alimente la presse à scandale. On a vu des... Bon, je tairai les noms. Qui sortent des études dramatiques, la dernière en date, sur une des premières chaînes de télé françaises.
Donc, et la nôtre aussi, je tiens à m'en faire le relais aussi.
La vôtre, j'ai pas vu. donc voilà, il faut un peu. Mais néanmoins, il y a un constat, c'est que le diagnostic doit encore gagner en fiabilité. Mm-hmm. Alors, vous parlez de plan d'action. Il y a un plan d'action qui est mené aujourd'hui au niveau du ministère, la DHUP, donc qui porte la direction de l'urbanisme, de l'habitat et de l'urbanisme et des paysages, qui porte justement, qui a une sous-direction qui porte ces sujets. Donc il y a un plan d'action qui a été proposé, qui a été travaillé avec tous les diagnostiqueurs et qui est en route. Ça va dans le bon sens. Néanmoins, pour nous, il y a encore des trous dans la raquette. Mm-hmm. Et il faut aller plus loin.
Et vous ne pensez pas que du coup, ce type d'étude que vous trouvez peut-être alarmiste, peut-être biaisée, peut-être ce que vous voulez, a au moins le mérite de mettre la lumière sur une problématique qu'on passait sous le tapis, compte tenu du poids et de l'enjeu du diagnostiqueur désormais au cœur de la valorisation du patrimoine des Français?
Chère madame, ces études, elles sont tendancieuses. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que s'il n'y avait pas eu ces études, la profession et l'administration auraient bougé ou pas? J'ai pas la réponse à ça. Je pense que ce qui est quand même nécessaire, faisons un constat, les choses vont dans le bon sens. Il y a ce plan d'action qui est mené et qui n'est pas suffisant. Mm-hmm. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas suffisant? Parce que nous, en tant que professionnels, on a voulu nous faire notre propre opinion. D'accord. Et on a décidé, au niveau de la fédération, de faire 2 études complémentaires. Une première étude avec un panel de diagnostiqueurs issus des différents membres. Et une deuxième étude avec un panel de diagnostiqueurs issus d'un membre. Et dans cette étude, on avait 2 scénarios. Un premier scénario où les données étaient incomplètes et un deuxième scénario où les données étaient complètes. Grossièrement, le résultat de cette étude fait apparaître 2 points. 2 points qui sont 2 points forts. 1, lorsqu'il nous manque de la donnée, le diagnostic est plus pessimiste et la note est plus fluctuante.
Et c'est une situation qui arrive très souvent.
C'est pour ça qu'on a un certain nombre de propositions qu'on a faites, qu'on discute en ce moment avec l'administration. On en parlera tout à l'heure si vous voulez.
On n'a pas beaucoup de temps, faut se dépêcher.
Deux, on s'aperçoit que lorsqu'on travaille avec un organisme où les gens ont la même formation, le même suivi, les mêmes qualifications, bien évidemment, l'écart est beaucoup plus réduit. Donc, de l'importance, effectivement, de prendre ça en compte.
Alors, ça s'améliore, c'est ce que vous nous dites. On a très peu de temps, il nous reste 2 minutes.
Parlez-nous de ces trous dans la raquette. Parlez-nous de ce sur quoi vous travaillez, justement.
Un, la mise en place d'un indice de complétude, qui est un indice qui permettrait, qui serait affiché dans le diagnostic et qui permettrait de vérifier que la donnée est suffisante pour bien faire le boulot. Deux, la formation. Unification de la formation. Aujourd'hui, vous avez des organismes de formation qui dispensent chacun leur formation. Alors, ils parlent tous du même sujet, mais différemment. Trois, la certification. Aujourd'hui, il existe une certification de personnes qu'il faut adapter et il faut aussi s'orienter vers d'autres certifications qui sont des certifications plus modernes, qui sont les certifications d'entreprise. Ne plus certifier l'individu, mais certifier l'entreprise. Pour nous, c'est les pistes principales qu'il faut creuser. Et on demande avec insistance à l'administration, j'espère qu'on va être entendu, invitez-moi dans quelques mois, je vous dirai si c'est le cas ou pas.
Avec plaisir, vous nous le direz.
Justement, pour participer encore plus sur ce volet formation et certification des entreprises. Parce que nous avons, nous, une vraie valeur ajoutée. Et puis, in fine, ce sont nos diagnostiqueurs qui font le boulot.
Exactement, et qui sont au cœur de ce sujet. Marie, le mot de la fin ?
Oui, lutter aussi contre les usurpations de certification, puisque visiblement, ça existe. Donc, il y a à la fois, effectivement, la formation, mais l'encadrement me paraît, pour toutes les professions, on a tous des gens pour nous encadrer et éviter des dérives, surtout quand les enjeux sont tels qu'on les connaît aujourd'hui.
Vous avez complètement raison. Oui. Mais si vous avez des professions, dans n'importe quelle profession, vous avez 95%, 18% des gens qui font bien le boulot.
Bien sûr.
Vous avez 2-3% de gens qui ne sont pas suffisamment formés, et puis vous avez quelques margoulins qui font n'importe quoi. Je pense que les proportions sont identiques sur le diagnostiqueur. De l'importance d'une certification et d'une surveillance beaucoup plus importante que celle qui est faite aujourd'hui, justement pour vérifier que, un, les gens sont bien formés et, deux, qu'il n'y ait pas les dérives qu'on connaît.
Et on va suivre ce dossier, évidemment, sur BFM Business régulièrement avec vous. Jean-Christophe Protet, merci d'être venu nous voir, président de Cidiane. Vous reviendrez sur ce plateau.
Avec grand plaisir et merci de m'avoir donné la parole.
Marie Cœur de Roy, qui est avec nous, notre spécialiste immobilier, et Pierre Kupferman, qui est avec nous tous les jours, bien sûr, dans 90 minutes business. Comme tous les jours, Annalisa Capellini jette un œil sur le monde. Aujourd'hui, Annalisa, on part en Russie. Malgré les annonces qu'on a faites il y a un an environ, un de ces entreprises occidentales qui disait vouloir se retirer de Russie au lendemain de l'invasion en Ukraine, on a constaté que la réalité était différente. Il n'y a pas vraiment eu d'exode des entreprises occidentales de Russie, Annalisa.
Non, pas vraiment d'exode. Avant la guerre en Ukraine, il y avait en Russie plus de 1400 entreprises des pays européens et des pays du G7. On peut parler d'entreprises occidentales en général. Eh bien, il faut savoir que de ces entreprises, il y en a seulement 120 qui se sont désengagées de Russie en vendant leurs filiales. Ça représente moins de 9% du total. Et parmi celles qui ont encore des filiales en Russie, presque 20% sont allemandes. Il y a encore une forte représentation des Américains. Et les Français ne représentent-elles que 5,6% du total.
Alors, et ce, malgré la pression de l'opinion publique, la pression des gouvernements occidentaux, analyse à ces entreprises, ont décidé de rester. Pourquoi ?
Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, l'activité peut ne pas être concernée par les sanctions et donc effectivement avoir le droit de continuer à exercer en Russie. D'autres citent la nécessité de leurs produits ou de leurs services. C'est le cas par exemple des médicaments essentiels. D'autres entreprises n'ont pas trouvé de repreneur ou alors à un prix qui n'était absolument pas convenable. Ou enfin d'autres se disent empêchés par les autorités russes qui mettent des obstacles administratifs. Dans tous les cas, il faut savoir que pour les entreprises, quitter un pays est dans ce cas particulier, la Russie, représente un coût économique très important. C'est le cas, par exemple, de Danone, qui a annoncé son désengagement de Russie il y a quelques semaines et qui envisage des pertes à 1 milliard d'euros.
Voilà, merci beaucoup pour ce bilan, presque un an après le début du conflit, Annalisa Capellini. Vous restez avec nous, BFM Business avec vous continue dans un instant. C'est sur les réseaux sociaux. On va recruter, on va répondre à vos questions également. Vous pouvez nous écrire sur cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr pour réagir. C'est à suivre dans 3 minutes sur LinkedIn, YouTube, Twitter et Facebook en direct. À tout de suite.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.